Les cours du Collège de France, Yvon Madé, chaire informatique et sciences numériques.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les méthodes d'approximation non linéaires, puisqu'on a compris dans le cadre où la dimension de Kolmogorov tendait vers zéro très vite en fonction de n, l'épaisseur de Kolmogorov tendait très vite, les méthodes linéaires marchaient bien, mais que il y a des cas, en particulier les problèmes de convection, pour lesquels l'épaisseur de Kolmogorov diminuait très lentement et que donc le nombre de modes pour représenter la solution était très grand, ce qui fait qu'on n'avait plus trop de notion de méthode de réduction de complexité. Les reduce basis methods n'étaient pas si reduce que ça. Donc je vous ai introduit la semaine dernière une méthode non linéaire. Donc je vous rappelle peut-être les notions d'encodeur et de décodeur, où on a cette variété S qui est inclue dans un espace de Hilbert grand X, qu'on approche éventuellement par une méthode très précise de type élément fini spectral. On s'en fiche un petit peu. Donc on met un H ici pour dire que les solutions sont en fait approchées par une méthode très précise. Et l'encodeur est quelque chose qui va dans R puissance N et le décodeur retourne dans X ou dans XH. Alors je vais enlever les H, c'était simplement pour vous rappeler qu'on avait une méthode très précise à un moment donné dans ce cadre-là. Et donc ce qui est important ici, c'est que le N qui est ici, on essaie de le rendre le plus petit possible avec un encodeur qui est une application donc de XH dans RN, ou plus précisément de SH dans RN, et le décodeur va de RN dans X. Alors selon que l'encodeur et le décodeur sont linéaires ou sont plus compliqués, évidemment on arrive à diminuer la taille du petit n, et on va s'intéresser aujourd'hui à des approximations totalement non linéaires dans lesquelles l'encodeur et le décodeur sont non linéaires. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un papier que je trouve très joli pour ce qui est de la théorie, en tout cas, qui est dû à Nicolas Franco. Andrea Manzoni et Paolo Zunino, donc à Milan, et donc qui ont fait une très belle analyse de ce qu'on pouvait attendre de ces encodeurs et décodeurs, et en particulier comment les représenter par des réseaux de neurones. Et en particulier, ils vont aussi s'intéresser à estimer le petit n qui est ici, le plus petit possible, qui va permettre de faire une bonne approximation. Alors, ça va être assez théorique aujourd'hui, il y a pas mal de théorèmes qui vont nous donner des estimations de cette valeur de petit n. Bon, je trouve ça très joli, et je trouve ça d'autant plus joli que je ne sais pas du tout comment le faire dans le cadre qui m'intéresse, où l'encodeur est linéaire et le décodeur est non linéaire, et ça serait bien si on pouvait avoir une estimation du petit n du même ordre de grandeur. Donc dans ce cadre-là, on appelle delta n de S, la variété, l'inf sur tous les... Alors le décodeur, on va l'appeler psi, et l'encodeur, on va l'appeler psi', puisqu'ils vont être réalisés par des réseaux de neurones à un moment ou à un autre. Et donc, ce qu'on va essayer d'approcher, c'est la différence entre U et psi rond psi' de U dans une norme appropriée, une norme X, sur tous les psi et psi' qui sont des fonctions continues. Alors, donc, le psi va de Rn dans grand X, et le psi prime y va de S dans Rn. Alors, quand on est éventuellement capable, avec des psi et des psi primes, de reconstruire exactement U, et bien delta n dans ce cas-là est égal à 0. Et donc, la plus petite valeur de n qui va nous permettre d'avoir un delta n est égal à 0 est appelée le n-min, l'épaisseur non linéaire de Kolmogorov, la dimension non linéaire de Kolmogorov, et qui est donc le min pour n appartenant à n de delta n de S égal à 0. Alors, leur objectif, c'est donc d'estimer cette valeur de n-min pour que, dans le cadre d'un auto-encodeur qui va aller donc de SH à X avec un psi prime et un psi et une réduction interne de dimension n, eh bien, quelle est la taille de la couche interne minimum qu'il faut mettre. Et c'est donc pourquoi ils se sont intéressés de façon théorique à l'estimation de cette dimension qui est là. Alors, le premier théorème qui est important est un théorème qui dit que si V et W sont deux espaces de Hilbert dans lesquels on a une variété S dans V et M dans W, et qui sont donc deux variétés compactes. Alors, si S et M sont homéomorphes, alors les dimensions non linéaires, n-min de S et n-min de M sont égales. Alors, comme je vous ai dit, j'allais vous faire des démonstrations aujourd'hui pour essayer d'éveiller éventuellement parmi les plus jeunes des idées pour essayer d'étendre cette approche-là à un cadre où E va être linéaire. Alors, comme la situation est symétrique, ce qu'on va démontrer, c'est que n min de S est plus grand que n min de M. Et évidemment, comme c'est symétrique, on arrivera à avoir les deux. Alors, si ceci est égal à plus l'infini, bon, bah, c'est terminé. Et donc, on va considérer qu'il existe, donc dans le cas contraire, il existe n, pour lequel delta n de S est égal à 0. Alors, en fait, tous les n qui sont supérieurs à n-min d'après la dimension de n-min de S. Alors, dans ce cadre-là, d'après la définition de delta n, il existe une suite psi-prime, psi d'encodeur, décodeur, indexé par J, tel que U moins psi rond psi prime de U, J tend vers 0 lorsque J tend vers l'infini pour ce qui est du sup pour U appartenant à S. D'accord, c'est la définition de cette épaisseur delta N de S. Alors, on suppose maintenant que on a cet homéomorphisme qui va de S dans M et qui est donc bicontinu. Alors, comme phi est continu sur un compact, alors phi est uniformément continu. Comme S est compact, on en déduit que phi est uniformément continu. Alors, cette uniforme continuité permet de définir le module de continuité monotone oméga. Qui est défini de la façon suivante. Oméga 0 de t est égal au sup de phi de x moins phi de y lorsque x et y appartiennent à s et x moins y est inférieur à t. Et ce que l'on sait d'après le théorème d'extension de Beniamini et Lidenstrauss, que je connaissais absolument pas avant d'avoir lu ce papier. Hein. C'est pas, je crois pas que ce soit un très classique. Albert, tu connais ce théorème ? Hein ?
C'est pas Kirsch-Brown qui va dire qu'on peut garder le même module.
Ouais, c'est ça.
Pour moi, ça s'appelle Kirsch-Brown.
Bon. Ok, bon, donc c'est peut-être Kirsch-Brown, dont eux ils l'appellent. Oui, oui. Si c'est dans un banar, il faut prendre le Dungunji théorème. Ok. Dans ce cas-là, on n'a pas le module de continuité. Bon, donc dans ce cas-là, puisqu'on est dans un Hilbert et qu'on a un module de continuité qui est là, modulo quelques considérations, on peut étendre. Phi, on peut l'étendre, faire une extension phi tilde qui va de V dans W, il allait déjà, je vous rappelle, de S dans W, mais maintenant il va aller de V dans W avec le même module de continuité. Ou à peu près. Il faut avoir un majorant concave de module de continuité pour que ce soit exactement bon, mais disons qu'on garde le même module de continuité. Alors donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce phi tilde là ? Eh bien, on va définir une application psi tilde j. Alors, psi qui est égal à phi rond psi j. Alors, je vous rappelle que le psi j, il va de Rn dans x, et que si on applique phi derrière, eh bien on se retrouve dans W, et on définit psi prime j comme étant égal à psi j prime rond phi moins 1. Phi moins 1 qui va, puisque phi est bicontinu, de m dans s, et psi prime va de S dans Rn, donc on est bon. Alors, delta M de M, du coup, est inférieur à la limite sup de M moins psi tilde J rond psi tilde J prime de M dans W. Donc la limite sup lorsque j tend vers plus l'infini et le sup sur m. Et donc, on majore ça évidemment par des par des limites lorsque j tend vers plus l'infini du sup sur s appartenant à s parce que ces objets-là arrivent bien dans s de phi tilde de S moins phi tilde de psi j de psi j prime de S en norme W. Alors maintenant, le phi tilde là, il a un module de continuité qui est majoré par W0. Donc ceci, c'est plus petit que la limite lorsque j tend vers l'infini du sup sur S appartenant à S de oméga appliqué à S moins psi de J moins psi prime de J de S, cette fois-ci en norme X, ça c'était en norme, c'était quoi, en norme V, ça c'était en norme W, ça c'est en norme V, d'accord, et donc ça, la limite est égale à 0 parce que justement les psi G et les psi G prime ont été calculés comme cela, d'accord, donc ça c'est la première chose qui dit que l'épaisseur non linéaire est donc invariante, grosso modo, par homéomorphisme entre des compacts. Alors, la deuxième chose qui va nous permettre de connaître cette dimension petit n, c'est par la notion de dimension topologique ou dimension de recouvrement de Lebesgue. Et on a le théorème suivant, ça c'était le théorème 1. Et donc on a le théorème 2, qui dit que si V est un espace de Hilbert, et si S inclus dans V est un compact, alors si la dimension topologique de S est égal à P, alors la dimension n-min de S est inférieure à 2P plus 1. De plus, si S est une variété de dimension P, alors n-min de S est supérieur ou égal à P. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est que la dimension topologique d'un compact S? Alors, on dit que la dimension topologique de S est plus petit ou égal à n si de tout recouvrement ouvert, de S par des ouverts on peut extraire un raffinement ouvert tel que aucun point de S n'apparaît dans plus de n plus 1 ouvert. Et alors on dit que la dimension topologique de S est égale à n si la dimension topologique de S est inférieure à n et on n'a pas dimension topologique de S inférieur à n moins 1. Donc ça, c'est pour un compact quelconque, et donc en particulier, ça sera vrai pour une variété compacte, même si pour une variété compacte, on aura, en tout cas localement, des choses plus précises, la dimension minimale localement pourra être égale à P. C'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière avec les développements de Taylor. Mais dans le cadre général, quand on prend toute la variété, eh ben, on peut très bien, même pour une variété de dimension P, avoir quelque chose de supérieur à P. Alors la démonstration commence donc par dire que si on a un compact de dimension topologique égale à P, alors le théorème de Menger-Nöbeling, que je ne connaissais pas non plus avant d'avoir lu ce papier, nous dit qu'il existe A inclus dans R 2n plus 1, donc une partie de R 2n plus 1, et une application phi bicontinue de S dans A, ce qui permet de voir que même si S, notre variété, est une variété de fonctions, donc des choses qui vivent dans L2 ou dans H1, comme des solutions d'équations ou dérivées partielles, et bien essentiellement, à partir du moment où on a une dimension topologique de P, et bien c'est comme si on pouvait se placer dans R puissance 2n plus 1. Alors, la construction de cette application-là, évidemment, elle est très très compliquée, je ne vais pas la faire, mais c'est le type de résultat qui est important pour avoir cette idée de la dimension non linéaire de la variété S. Alors, la démonstration qui suit pour avoir cette estimation-là, vous comprenez bien que on a... ici, c'est P. Hein. Ici, c'est P. Donc, comme on a un espace de dimension 2P plus 1, on va faire encore des extensions. Donc, A, puisqu'il est en bicontinuité avec S, A est donc compact. Et donc, phi moins 1 qui va de A dans S peut être étendu en une application psi qui va donc de R2P plus 1 vers l'espace V. D'accord, par le même théorème de ici ou le Kirsch-Brown. Et donc on a cette application psi qui va de R2P dans V et qui est en phi moins 1. On va appeler psi prime, on va l'appeler phi. D'accord, et donc dans ce cas-là, on n'a que psi rond psi prime de S est égal à S par construction, et qu'on est passé entre-temps par une dimension R de P plus 1, ce qui montre que l'épaisseur non linéaire est plus petite que 2P plus 1. Alors, si maintenant S est une variété de dimension P. Et si N est plus petit que P, eh bien on va montrer que le delta N n'est pas égal à 0. Alors, ce qu'on sait, puisque c'est une variété de dimension P, c'est qu'il existe une application phi qui est bicontinue d'une boule inclue dans RP, la boule étant l'ensemble des x appartenant à RP de norme inférieure ou égale à 1, vers S, qui représente une partie de S, et donc l'image, c'est U inclus dans S. C'est un recouvrement de la variété S par l'application qui définit la variété. Alors, on va définir cette quantité qui dépend de x pour x égale 1. Et on va considérer son minimum. Donc phi est continu, on est sur la sphère, puisque on est sur x est égal à 1. Et phi est une bijection. Bon, alors donc ce machin-là, il ne peut pas s'annuler. Et donc ce minimum est égal à m, qui est strictement positif. Le minimum étant atteint, puisqu'on est sur un compact. Alors, on va démontrer que delta n de s est supérieur à m sur 2. Ce qui montre donc que la dimension n min est bien supérieure à p, puisqu'elle ne peut pas être inférieure. Alors, on prend une application psi' qui va de S dans R puissance N et psi qui va de R puissance N dans V, qui sont donc deux applications continues qui vont intervenir dans, le, dans les définitions de psi et psi' qui sont ici. Et donc, on note que psi' rond phi eh bien, va de B inclus dans RP, dans RN. La boule est une partie de RP, et psi' est censé aller dans RN. Donc psi' rend phi va bien de RP dans RN. Alors, d'après le théorème de Borsuk-Ulam, alors celui-là, je me souvenais de l'avoir vu, eh bien, on sait qu'il existe un point I appartenant à la boule, et même appartenant à la sphère, tel que eh bien, cette application-là, psi' rond phi de x étoile, est égale à psi' rond phi de moins x étoile. Donc quand on a une application qui va d'une sphère de RP dans RN, avec n plus petit que p, alors il y a forcément deux points antipodaux qui ont la même image par cette application-là. Alors pour le voir rapidement, c'est facile en dimension 2, si on prend la sphère et qu'on va dans R, avec une application F, et qu'on paramètre le cercle par l'application exponentielle iθ, alors on peut définir l'application h de θ égale F de exponentielle iθ moins F exponentielle moins iθ. OK, donc cette application-là, qui est à valeur dans R, est définie pour tout état appartenant à 0 de pi, et on va démontrer, évidemment, qu'elle s'annule. Alors, pour démontrer qu'elle s'annule, on va supposer qu'elle ne s'annule pas. Si h de θ ne s'annule pas, alors elle ne change pas de signe parce qu'elle est continue. Mais évidemment, h moins θ est égal à moins h de θ, ce qui pose un petit problème, puisque en deux points antipodaux, h est censé changer de signe. Donc forcément, h s'annule en un point. Ce qui veut dire que f de exponentielle i theta star est égal à f de exponentielle moins i theta star. Et donc, il y a deux points antipodaux pour lesquels f prend la même valeur. Alors du coup, vous avez compris ce qu'on... Donc ça, c'est la généralisation en dimension p à valeur dans n avec n, Rn à valeur avec n plus petit que p. Et donc là, bien évidemment, ce qu'on va avoir, c'est que le sup, terminé ici, le sup de V moins psi rond psi prime de V pour V appartenant à S est plus grand que le sup sur V appartenant à la boule de V moins psi rond psi prime de V. Et donc, si on regarde en particulier en ces points X étoiles, c'est supérieur au max des deux quantités qui sont phi de X étoiles moins psi rond psi prime de phi de X étoiles et de phi de moins X étoiles moins la même chose au point moins x étoile. Et donc ça, c'est plus grand que par... C'est plus grand que la demi-somme de ces quantités-là, de phi de x étoile plus phi de moins x étoile, etc., qui est supérieur parce que les deux psi rond psi prime de phi de x étoile sont égaux. C'est plus grand que 1 demi de phi de x étoile moins phi de moins x étoile en norme. Et ça, c'est supérieur à m sur 2. Donc, pour le passage de là à là, j'ai utilisé, bien évidemment, une inégalité triangulaire. OK. Alors, ce cadre-là vous montre bien, d'ailleurs, que la dimension d'une variété, ici le cercle, est supérieure à 1, puisque pour le même cadre s'applique... Et que donc, dans ce cas-là, la dimension de cette variété qui est ici est égale à 2. C'est une variété de dimension 1 pour laquelle le n-min est égal à 2. Et que donc, il va falloir deux paramètres pour représenter tous les points de la variété qui est ici. Alors, application au cas qui nous intéresse, c'est-à-dire une EDP paramétrée. Donc, on a un ensemble de paramètres P qui est inclus dans RP. D, peut-être que je l'avais appelé. Les mu sont dans D. Et donc, on a une équation paramétrée qu'on écrit comme un certain résidu de U de mu et de mu est égal à 0. Alors, théorème, si l'application qui a mu associe U de mu qui va donc de D supposé compact dans R, dans V, ou dans VH si on a discrétisé par élément fini cette équation aux dérivées partielles. Alors, on définit S comme étant l'ensemble des solutions U de mu de cette EDP pour mu appartenant à D. Et on appelle S indice D l'ensemble formé par mu et U de mu pour mu appartenant à D. D'accord ? Donc là, on augmente la variété par la connaissance de mu. Alors, si l'application qui a mu associe U de mu est Lipschitz, alors N min de S est plus petit que 2P plus 1. A2, si il existe un mu 0 à l'intérieur de D avec mu donne U de mu localement injective au voisinage de mu 0, alors n min de S est supérieur à P. Donc ça veut dire que la locale injectivité, ça veut dire que dans la paramétrisation, il n'y a pas un des paramètres qui sert à rien. Hein. Ou une combinaison linéaire des paramètres. Hein. Donc on a une locale injectivité, donc la dimension de la variété est au moins égale à P, donc ça c'est une conséquence de cette partie-là. Et bien sûr, celle-ci est une conséquence de cette partie-là. Je ne vais pas faire la démonstration, je vous énonce simplement les propriétés. Alors, A3. Si l'application qui a mu associe U de mu est continue et injective, alors, n min de S est égal à n min de D. Et en particulier, si l'intérieur de D n'est pas vide, alors n min de S est égal à P. Qui n'est donc pas le cas pour le cercle, puisqu'il y a au moins deux points dans la paramétrisation pour lequel on a, si on part d'un ensemble de θ compact, il faut qu'il y ait au moins deux points qui coïncident, et donc on n'a pas l'injectivité. Qu'est-ce que tu as, Albert ?
Non, c'est juste qu'il y a une table à faire.
Ah ! Ah oui. Alors, donc il y a une partie supplémentaire qui s'appelle B. Si l'application qui a mu associe U de mu est continue, alors n min de Sθ est égal à n min Sd. Est égal à n min de d. Bon, ça c'est assez évident puisque Maintenant, on a assuré l'injectivité en rajoutant mu à u de mu, ce qui permet d'avoir l'injectivité et donc on rentre dans le A3 qui est ici. Oui, c'est l'injectivité qui. Oui. Ouais. Alors, maintenant, donc, on passe à. Alors, on peut prendre des. C'est ce qu'ils ont fait dans leur papier. Ils ont pris un problème de convection-diffusion avec pas mal d'hypothèses de régularité sur les coefficients. Vous pourrez regarder cette chose-là et qui explique donc la dimension de la variété d'ensemble des solutions lorsque le paramètre varie et qui est donc compris entre P et 2P plus 1 selon les hypothèses qui sont faites. Alors maintenant, donc, ce à quoi on va s'intéresser, c'est la réalisation de psi et psi prime. Alors la réalisation va se faire par des réseaux de neurones. Et donc, un réseau de neurones, c'est donc exprimé par un certain nombre de couches qui s'appellent des layers, donc on va les noter L, et qui, appliqué à un vecteur de Rn, va nous donner une image qui est rho de WV plus B, où rho est une fonction d'activation donc V est un vecteur qui est dans un espace de dimension N1 et qui va dans un espace de dimension N2 avec un B qui est de dimension N2 et un W qui est une matrice qui va de Rn1 dans Rn2 et la fonction d'activation travaille composante par composante. Alors, un réseau de neurones, ça va être une suite de telles couches qui vont être composées les unes après les autres avec une couche d'entrée, une couche de sortie et des couches intermédiaires qui sont donc des choses qui s'écrivent de cette façon-là, d'où l'écriture classique qui est que le W plus le B. Ça va nous donner donc les applications qui, à V associé ici, associe le WV plus B. Et il y a un rho qui agit composante par composante et qui donne le résultat à l'intérieur de cette jm couche qui est ici. Alors les coefficients de W et les coefficients de B sont adaptés pour répondre à une minimisation, et la minimisation qui va nous intéresser, c'est justement d'être capable de représenter les éléments qui sont dans la variété S. Alors, ce qu'il propose, c'est une architecture du type auto-encodeur où on va avoir la représentation d'une fonction U qui est une solution de notre problème paramétré. Et donc on va avoir un certain nombre de couches qui sont ici avec la dernière couche qui est de dimension petit n, ou petit n, c'est justement la dimension qu'on a vue tout à l'heure, qui est donc comprise entre P et 2P plus 1, et qui est la dimension non linéaire qu'on a vue tout à l'heure. Alors l'auto-encodeur, il repart avec des couches qui sont ici pour retrouver un psi rond psi prime de U. Donc cette partie-là, c'est le psi prime. Cette partie-là, c'est le psi. Et donc, comme l'architecture doit être définie pour entraîner un tel réseau de neurones, il est important d'avoir une idée de ce petit n qui est là. Et donc, plutôt que d'avoir un choix totalement libre, eh bien, ils ont, et l'étude théorique précédente a permis de diminuer l'ensemble et d'avoir une intuition de ce que peut être n. Donc, si on résout localement, si on résout suffisamment localement, on va avoir l'injectivité dont on parle ici, et si on a l'injectivité, la continuité et l'injectivité, alors on peut réduire ici à n égale p. Si on veut voir de façon plus globale, eh bien, il faut prendre une dimension interne petit n qui va être sans doute plus grande que p. Mais on peut le prendre aussi grand qu'on veut, mais plus on le prend grand, plus la complexité de la reconstruction va être difficile. Alors, une fois que ce réseau est entraîné, et donc le nombre de couches qui sont ici peut être déterminé par une analyse de la complexité justement du problème. Une fois qu'on a exercé ce psi prime et ce psi, et le psi prime, on va l'oublier, le psi prime n'a servi que être capable de représenter un vecteur qui est ici, dont la dimension est infinie a priori, mais je vous rappelle qu'on l'approche par une méthode d'éléments finis, et donc la dimension de ces vecteurs-là est très très grande, d'accord ? Trop grande pour faire des calculs en ligne. Et donc, à quoi a servi cette chose-là ? Être capable d'extraire l'information minimale qui nous permet de reconstruire le U à partir de ces degrés de liberté qui sont là. D'accord ? Donc, maintenant, on a mu qui appartient à D, et à partir de U qui appartient à D, on peut définir, bien évidemment, le U, qui est un U de mu, Et ça, c'est donc la résolution exacte ou approchée du problème paramétré. Et on peut, au travers du psi', à chaque mu, connaître les éléments qui sont ici, qu'on va appeler u petit n de mu, et qui sont la compression optimale de l'information qu'il y a dans cette variété. D'accord ? Alors, pendant qu'on a exercé cette chose-là, on a tout mu, on a la connaissance de un de mu, et que donc on peut bâtir à partir de la taille des paramètres qui est un élément de D inclus dans RP, on peut définir un réseau de neurones directs qui va permettre d'avoir pour image le un de mu. Et ce réseau-là, on va l'appeler phi. Donc ce réseau-là, c'est un réseau qui est appris pour court-circuiter cette partie-là, parce que cette partie-là, elle invoque la résolution du système qu'on n'a pas envie de faire, online. Donc online, on veut avoir la connaissance de ce réseau-là qui va nous permettre de passer rapidement de mu à un de mu. Et donc, il nous reste à dire que u de mu va être égal à psi' rond phi de mu. Donc une fois qu'on a pu apprendre cet autoencodeur qui est ici, qui nous permet de définir l'information la plus contractée à ce niveau-là, et qu'une fois qu'on a fait ça, on a bâti ce réseau de neurones qui a mu associe les un de mu, et bien on a deux réseaux de neurones, l'un qui s'appelle phi, l'autre qui s'appelle psi, et u de mu est égal à psi rond phi de mu. Et donc là, vous avez une méthode totalement non intrusive qui va pouvoir être utilisée et qui va être très rapide, enfin la rapidité d'utilisation d'un tel réseau de neurones, et qui ne va plus du tout passer par cette étape-là d'une façon directe ou approchée ou base réduite. Donc on a une approximation non intrusive de l'application qui a mu associe u de mu. OK ? Donc, contrairement à ce qu'on a vu les fois précédentes, on oublie totalement l'EDP à ce niveau-là. On ne le résout plus de façon galerkine sur une base réduite. On a appris directement, en passant par cette couche de dimension étant égale à la dimension non linéaire de Kolmogorov dans le cadre d'encodeur-décodeur continu. Alors la semaine prochaine, on va voir d'autres méthodes non intrusives qui sont plus liées à l'EDP, mais je voulais quand même vous montrer celle-ci par le fait qu'on a une estimation de ces dimensions de réduction non linéaire qui me semble importante. Alors, vous pourrez regarder le papier ensuite, parce qu'il y a des résultats d'approximation et de simulation sur des phénomènes qui sont dans lesquels l'épaisseur de Kolmogorov est pas très très grande, mais est assez élevée. Et donc, ça marche. Ça marche avec une précision de l'ordre de quelques pourcents. Donc l'erreur in fine, au travers de cet apprentissage-là, est de l'ordre de 1%, ce qui peut tout à fait suffire pour pas mal d'applications, ce qui est insuffisant pour d'autres. Alors, la base d'apprentissage qu'ils ont utilisée pour un problème paramétré avec il y avait combien de paramètres ? Il y en avait 7. La base, elle n'est pas si grande que ça, c'est-à-dire qu'ils ont une base d'apprentissage de type 10 000, je crois. De l'ordre de 10 000 pour n égale t égale 7 paramètres. Donc c'est une approximation dans laquelle ils ont pu prendre n égale p. Et donc dans ce cadre-là, il y a une erreur tout à fait raisonnable. Alors maintenant, pour avoir une meilleure erreur, pour avoir une estimation d'erreur, d'abord, l'estimation d'erreur, il faudrait avoir accès aux résidus. Comme on ne résout pas l'équation, on n'a pas accès aux résidus. Donc, ce n'est pas impossible, mais il faut rajouter l'estimation d'un résidu à ce niveau-là pour avoir une estimation d'erreur. Pour améliorer l'approximation, ici, il n'y a pas du tout d'approximation en base réduite. On garde la même représentation. Ceci, c'est bien un élément qui est dans XH, in fine. La seule raison pour laquelle l'erreur est de l'ordre de 1%, c'est pas lié au fait que H n'est pas assez petit, c'est lié au fait que d'apprendre des termes qui sont en haut de 1 se fait assez facilement avec une base d'entraînement pour avoir une précision d'1%. Pour avoir des précisions plus petites, il faut avoir une base d'entraînement qui est plus grande. Le nombre de couches qui est utilisé dans cette partie-là et dans cette partie-là, donc elle est estimée, ils ont une estimation en fonction des régularités, des constantes de continuité, des coefficients qui interviennent dans l'équation aux dérivées partielles, mais il est aussi lié à l'épaisseur linéaire de Kolmogorov. D'accord ? Donc le nombre de couches ici, L, est lié à la régularité des coefficients qui interviennent dans l'équation aux dérivées partielles, mais aussi, donc elle est estimée, et peut-être que ça peut être estimé différemment, par l'épaisseur linéaire de Kolmogorov. Donc le nombre d'opérations qui sont ici et qui sont là, dans un certain sens, fait intervenir quand même l'épaisseur linéaire de Kolmogorov. Et donc le nombre d'opérations est quand même d'une façon ou d'une autre lié à cette épaisseur qui est là. Mais en tout cas, c'est non intrusif. Donc cette application du réseau de neurones est assez élégante. Alors dans ce cadre-là de méthode non intrusive, où on part de mu pour arriver à une approximation de mu. Donc ce papier-là n'est pas le premier, c'est celui qui pose la base de ce réseau en taux-encodeur et de l'application qui est phi ici, c'est le premier papier qui parle de cette estimation-là, de cette construction-là, avec une estimation de la dimension qui est ici. Mais il y a d'autres papiers qui proposait des méthodes non intrusives. Et donc, les premiers papiers sont dus à Estaven et Wang. Et Ray. Donc, dans un papier qui s'appelle Non Intrusive Reduced Order Modeling of Unsteady Flow. Using Artificial Neural Network, qui était paru en 2019. Il y avait un autre papier d'Estaven qui complétait celui-là avec un collaborateur qui s'appelle Guo et qui était paru en 2018. Donc ça, c'est l'école d'Estaven. Et du côté de Manzoni, il y a des papiers dans lesquels Fresca est intervenu avec Manzoni et Dédé pour le troisième, qui sont parus en 2021 et 2022. Ce papier-là de Franco, Manzoni et Zunino étant paru en 1922 ou 1923. Voilà, alors dans ces papiers qui sont là, on a la notion de Reduced Order Modeling, c'est pour ça que je vous ai mis le titre, parce que au lieu de représenter, comme dans le papier de Franco Manzoni, les solutions sous la forme totale élément fini dans XH, il y avait une contraction qui était faite ici, même si elle était a priori grande, parce que l'épaisseur de Kolmogorov est assez large, on a quand même une représentation de U, de mu, approchée par un UN de mu, qui est une somme, je vous rappelle, de U chapeau K de mu zeta K, où zeta K est la base réduite obtenue soit par une méthode greedy, soit par une méthode SVD, soit par une méthode POD, soit par une autre méthode. Donc on définit une base réduite offline à partir d'un certain nombre d'évaluations de la solution pour différents paramètres. Ici, on va de K égale 1 à grand N, et puis grand N ici est grand. Okay, grand N est grand, mais il est de toute façon plus petit, et notablement plus petit, que le NH qui est là. D'accord ? Donc dans ces approches qui sont ici, de méthode non intrusive, le réseau de neurones est appliqué à l'apprentissage de mu, donne les UK chapeaux de mu, pour K allant de 1 jusqu'à grand N, le grand N étant fixé pour obtenir une précision donnée a priori inférieure à epsilon. D'accord ? Donc c'est le même cadre, et donc ces papiers-là passent aussi par une notion d'auto-encodeur, mais ce n'est qu'après qu'ils ont estimé la dimension minimale qu'il faut mettre ici. Donc Fresca, Manzoni et Dédé approchent une méthode qui ressemble à celle-ci. Estaven va directement de mu à l'apprentissage des UK de mu, et qui va donc d'un espace de dimension P à un espace de dimension grand N, avec un réseau de neurones qui apprend ça. Donc là, les erreurs aussi sont du même ordre de grandeur. Ce qui montre que ça marche et qui peut être éventuellement suffisant pour beaucoup d'applications et qui peut être analysé, mais qui ne peut pas être analysé a posteriori. Et pour augmenter la précision, eh bien, il faut augmenter notablement la base d'entraînement dans tous ces cas-là. Alors, il y a une dernière classe de méthodes qui rentre un peu dans ce cadre-là, qui s'appelle la méthode d'Hipponet, introduite par Karniadakis et co-auteur, dans laquelle, a priori, on n'a même pas de discrétisation qui est là. On apprend simplement une application qui a U de X et de mu, va approcher cette chose-là par une somme de contributions qui dépendent de X multipliées par des psi j, disons, de mu, qui ressemble donc à une approximation de type basse réduite, mais où les TI et les psi j sont totalement laissés libres et adaptés au travers du réseau de neurones pour être capables de bien représenter une solution U de X et de mu quelconque qui peut ne même pas être définie sur un maillage. Donc cette notion de Karniadakis qui donnera pour suite les méthodes de type PIN qu'on verra au dernier cours. Eh bien, ces méthodes de DeepoNet représentent des fonctions de type X et mu, un petit peu comme des tenseurs, comme une somme de fonctions de mu multipliées par des fonctions de X, où ces fonctions de X ne sont absolument pas calculées par une méthode greedy. Donc, ça généralise totalement cette approximation qui est ici et qui a été utilisée comme base, au moins, de régularité dans les travaux de Estaven et de Manzoni. Alors, ces méthodes-là donc, sont donc établies pour ce qui est de la dimension interne de l'auto-encodeur, mais comme j'ai dit plusieurs fois, ils pêchent par le fait que l'erreur ici n'est pas complètement maîtrisée, et pour être capable de la diminuer, il faut augmenter notablement la base d'entraînement. Et alors ça, c'est pourquoi ? Eh bien parce que ce qu'on essaie d'approcher ici, ce sont des quantités, ce qui représente les valeurs de U aux différents points du maillage, et que donc ce qu'on essaie de reconstituer là, ce sont des quantités qui sont toutes en haut de 1 si on normalise la solution. Dans le cas de l'approximation en base réduite, on sait que les UK de mu qui sont ici, d'accord, appartiennent à des choses qu'on peut apprendre qui s'appellent des AK BK. Donc, ou AK, ça va être le min sur mu de U chapeau K de mu, et BK, c'est le max en mu de U chapeau K de mu, et on sait que module de AK tend vers 0 et module de BK tend vers 0 lorsque K tend vers l'infini. Alors, ça peut converger plus ou moins vite, mais en tout cas, ça tend vers zéro. Alors, ce qui veut dire que les premiers modes U chapeau 1 va être aussi en haut de 1, comme les valeurs de la fonction qui nous intéresse. Alors, je dis la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire il peut y avoir des petites valeurs à l'intérieur de cette fonction-là. Elle peut être très très grande, mais dans ce cas-là, on va changer d'unité pour la mettre égale à 1. Et dans ce cadre-là, les premiers coefficients dans la base réduite des états K, les états K, eux, étant en haut de 1, eh bien les U chapeau K, les coefficients, les premiers coefficients sont en haut de 1. Et donc, quand on apprend des quantités en haut de 1, eh bien, une méthode d'apprentissage a une erreur relative, qui est de l'ordre de quelques pourcents, quelques pour mille, si on augmente notablement la base d'entraînement. On peut éventuellement aller plus petit, mais ça demande dans ce cas-là vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et c'est une erreur relative, comme j'ai déjà pu le dire, Et que donc, au lieu d'apprendre tous les coefficients, on apprend simplement les coefficients à partir d'un certain rang. Donc si au lieu d'apprendre tous les coefficients U chapeau K pour K allant de 1 jusqu'à grand N très très grand, on apprend seulement les U chapeau K pour K allant de un certain M plus 1 jusqu'à grand N, eh bien, le premier coefficient qu'on va apprendre, ça va être U chapeau M plus 1, qui est dans l'intervalle A M plus 1, B M plus 1. Et ce qu'on peut espérer, c'est que le module ici soit plus petit que 10 moins 1, ou 10 moins 2, ou même plus. D'accord ? Et donc, l'erreur relative de 1% qui est faite par l'apprentissage est une erreur relative qui, multipliée par la taille de coefficient, va nous donner naturellement une erreur in fine qui va être plus petite. D'accord ? Donc c'est pour ça que je suis évidemment en faveur des méthodes que je propose. Hein ? Le contraire aurait été étonnant. Puisqu'on réserve l'apprentissage à apprendre des compléments d'information par rapport à une base qu'il va falloir définir. Et cette base, elle est définie par justement la minimisation d'un résidu sur des fonctions qui vont s'écrire U, N, grand N de X étant une somme de U chapeau K, zeta K pour K allant de 1 jusqu'à petit n, plus une somme de U tilde K, zeta K pour K allant de N plus 1 jusqu'à grand N. On va apprendre cela, et cela, on va les apprendre, on va les calculer en minimisant le résidu sur l'ensemble des fonctions qui s'écrivent de cette façon-là. D'accord ? Donc le fait d'avoir un résidu va nous permettre d'avoir une idée de l'erreur in fine que l'on commet, et l'avantage, c'est que ces coefficients-là étant plus petits, l'erreur d'apprentissage relative appliquée à ces coefficients-là va nous donner une erreur in fine qui va être bien meilleure. OK. Alors, dans le cadre des méthodes non intrusives, je vais peut-être quand même vous expliquer pourquoi ces méthodes non intrusives sont importantes, et on en verra la semaine prochaine d'autres. Les méthodes non intrusives sont importantes parce que, supposons que le problème initial résolu sur l'espace XH ou VH, je crois que je l'avais appelé, soit un problème qui est linéaire. Alors dans ce cas-là, les degrés de liberté qui sont ces choses qui sont ici en entrée et en sortie et qui sont représentées par un grand vecteur UH s'obtiennent en résolvant ce système qui est là, où A est une matrice de taille NH sur NH, et qui est la représentation élément fini du problème qu'on avait au début, le problème étant un A de U, V et de mu est égal à F de V et de mu. Donc cet espace-là étant l'espace vectoriel engendré par des fonctions BI, I allant de 1 jusqu'à NH, la matrice A est donc la matrice qui représente les A de BI, BJ et de mu. Alors, si on s'est mis dans un cadre SVD, qu'est-ce qu'on a fait ? On a calculé UH de mu1, UH de mu2, UH de mu grand M, qu'on a mis en colonne. Et on a donc une grande matrice qu'on va appeler grand U, dont on va faire la SVD. Qui s'écrit donc W, sigma où sigma est une matrice diagonale, Z transposée. Et donc W représente les vecteurs singuliers à gauche. Et si le sigma est écrit comme une matrice diagonale avec des éléments singuliers qui sont écrits de façon décroissante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors je vais mettre un tilde ici, on va prendre W comme étant l'extraction des grands N modes qui sont dans cette matrice-là, les premiers grands N modes qui sont ici. Et c'est eux qui nous donnent la base réduite obtenue par SVD. Donc c'est une base orthonormale et donc W transposé W égale l'identité dans N et la représentation réduite d'une fonction UH de mu que je vais mettre sous une forme d'un vecteur, eh bien ça va être approché par une projection de UH par W transposé et W ici. Est-ce que ça marche comme dimension ? Oui, c'est ça. Donc ceci nous donne le produit scalaire soit dans RNH, soit on peut mettre une matrice qui revient à faire des produits scalaires dans L2 ou dans H1. Et ça nous exprime donc une approximation de UH de mu dans la base réduite générée par les premiers vecteurs qui sont ici. Alors dans ce cadre-là, donc on va appeler ça U grand N de mu égale à ceci, et ceci nous donne un vecteur de dimension grand N que l'on cherche à approcher, non pas à partir de UH, mais en résolvant un système linéaire de ce type-là. Et donc le système où les coefficients qui sont ici vont être approchés, donc ceci va être approché par un W multiplié par un vecteur U tilde N, qui est un vecteur des composantes dans Rn de l'approximation en base réduite de UH de mu, eh bien ce UN tilde qui est là est solution d'un problème qui s'écrit AN de UN tilde est égal à un FN. Alors, l'intérêt de la méthode de base réduite, c'est que ce système-là, on a compris, était un système n fois n, donc beaucoup plus petit que le nh fois nh. Donc la résolution de ce système-là va en ligne être très très peu coûteux, à condition qu'on soit capable de calculer cette matrice qui est ici et qui correspond à partir de A à la matrice. Alors, il ne faut pas que je me plante, ça doit être W qui est ici et W transposé qui est là. Ouais. Donc ça, c'est la matrice AN. Et que donc, si je veux construire AN à partir de A de mu en appliquant cette opération-là, c'est tout à fait faisable, mais vous voyez que ça coûte très cher et que ceci ne peut être fait que si je connais mu, et je connais mu aujourd'hui, donc ceci ne peut se faire que de façon offline. C'est donc pourquoi une des façons de s'en sortir, c'est d'espérer que le système qui est là est tel que A est égal à une somme de GP de mu, AP de UV, où les AP sont indépendants de mu, la dépendance en mu est extérieure, et que donc on peut calculer toutes ces matrices qui sont là offline, ce qui fait que cette écriture-là implique que le AN de mu est égal à une somme de GP de mu multiplié par des ANP qui sont indépendants de mu. Donc ceci est formé offline, stocké, ça ne coûte pas cher parce que c'est de la taille de N. Et donc, online, je connais mu, les GP de mu, c'est des simples scalaires, je multiplie les ANP et j'obtiens AN. Donc, en aucun cas, on ne le calcule comme ça, parce que ça, ça ferait un calcul où la dimension NH intervient. Mais ça, c'est un cas très particulier de décomposition affine. Alors, on a vu qu'au travers des méthodes d'hyperréduction, en particulier les méthodes de IM, on peut approcher ce cadre-là de façon générale comme une somme de GP de mu, mais un, c'est une approximation, et deux, il y a une taille de IM qui fait que si le problème est un petit peu complexe, il faut des points magiques pour chacun des coefficients qui interviennent ici, et ça peut devenir un peu complexe, un peu coûteux. Donc, la construction de cette matrice-là pose problème dans certains cas, d'où l'intérêt des méthodes non intrusives qui permettent d'estimer AN de mu d'une certaine façon, on verra la semaine prochaine, ou alors de totalement s'en passer en allant directement de mu à la fonction ou de mu aux coefficients qui sont ici. Donc l'intérêt des méthodes non intrusives est vraiment quelque chose de non négligeable parce que la construction du AN de mu ici, si dans certains cas elle est facile, dans beaucoup de cas elle n'est pas si facile que ça, elle demande beaucoup, beaucoup de calcul, et en particulier si au lieu d'être linéaire, le problème devient non linéaire, alors ceci peut poser problème, d'où l'intérêt des méthodes non intrusives. Alors la semaine prochaine, ce qu'on verra, c'est deux types de méthodes non intrusives. Une méthode dans laquelle l'apprentissage va encore intervenir. L'apprentissage va intervenir pour essayer d'estimer ce AN de mu qui est là. Donc on n'estime pas les coefficients, mais on estime l'opérateur. On va construire cet opérateur-là. Donc ça, c'est des travaux de Karen Wilcox et de Benjamin Pierre-Strofer et d'autres collaborateurs qui permettent donc d'apprendre l'opérateur linéaire ou non linéaire qui gère la construction des coefficients qui sont ici, puisque offline, on a pour tout mu ces coefficients qui sont là. Et bien, on va essayer d'estimer quel est le système implicitement qui est résolu. On va construire le AN de mu et online, on va résoudre, pour des nouvelles valeurs de mu, on va résoudre ce système qui est là. Donc ça, c'est la première méthode qu'on va voir la semaine prochaine. L'autre méthode, c'est une méthode qu'on a proposée avec Rachida Shakir et qu'on a ensuite développée avec Élise Grosjean, qui est que On a donc ce système AH qui existe et qui est utilisé de toute façon offline. Donc on a un code dont on a acheté un certain nombre d'éléments. On est capable d'utiliser ça pour un maillage donné, mais on n'est pas capable de rentrer dedans, ou alors ça va être un petit peu trop compliqué. Donc ce qu'on va avoir, c'est aussi ce même opérateur avec un maillage beaucoup plus grossier. D'accord ? Et donc à partir de ces deux choses-là, on va essayer de voir une relation entre la solution UH de mu et la solution U grand H de mu. L'une qui va s'écrire comme une somme de UH chapeau K zeta HK, et l'autre qui va s'écrire U chapeau L grand H zeta L grand H. Donc ça, c'est une base réduite sur le maillage grand H. Ça, c'est une base réduite sur le maillage petit H. Qu'est-ce qu'on accepte de faire ? On accepte de construire cette matrice-là, parce que grand H est grossier, pour être capable d'estimer ces coefficients-là. L'avantage, c'est que H étant grossier, ceci, ça va, le coût va être acceptable. Par contre, la complexité est acceptable. Par contre, l'erreur, eh ben, c'est du haut de grand H, donc ce n'est pas acceptable. C'est beaucoup trop grand par rapport à la tolérance. Le petit h ici, il a un coût trop grand. Par contre, l'erreur en haut de H est inférieure à la tolérance. D'accord ? Donc l'idée de ces méthodes-là, c'est des méthodes qui, à partir de l'évaluation qui est là, et donc du calcul possible des U chapeau L, va nous permettre de reconstruire ces coefficients qui sont là. Donc ça, c'est évident, vu le cadre, que ça peut marcher. L'intérêt, c'est qu'on peut mettre ici une matrice B, et donc on apprend quelque chose de tout à fait linéaire, il n'y a pas de multicouche, il n'y a rien du tout. On apprend simplement quelque chose de linéaire et ça marche. D'accord ? Donc j'expliquerai ça la semaine prochaine, un petit peu en lien avec les notions d'apprentissage, mais aussi basé sur le fait qu'on maîtrise cette erreur-là, on maîtrise cette erreur-là et on peut faire un lien entre les deux. Très bien. Donc on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, ici, la taille de l'auto-encodeur, elle est fixée parce qu'on fixe l'architecture. D'accord ? Donc, on ne peut pas la laisser totalement libre, il faut la fixer pour être capable de savoir par où on passe, quelle est la taille du goulot d'étranglement au travers duquel on passe. D'où l'intérêt des théorèmes précédents. D'accord ? Donc, ceci nous permet d'avoir une idée de ce qu'est la taille minimale qu'on doit mettre ici. Et une fois que c'est appris, une fois que c'est entraîné, on apprend cette chose-là. Donc ça, c'est l'intérêt. Par rapport à ce que vous dites, on pourrait effectivement passer directement de mu à là. C'est grosso modo ce qui est fait dans ce cadre-là. Mais le réseau de neurones est beaucoup plus complexe. Son architecture est beaucoup plus difficile à connaître. Là, par l'étude qui est faite, on connaît la taille ici. Connaissant la complexité du problème, on est aussi capable de connaître, déterminer le nombre de couches nécessaires pour représenter le système avec une certaine précision. D'accord ? Donc je pense que c'est l'avantage de cette méthode-là par rapport à une méthode directement qui va de là à là, dans laquelle on laisse le réseau de neurones apprendre les choses, mais sans avoir vraiment de notion de quantification du nombre de couches et du nombre d'éléments dans chacune des couches. Mais je ne suis pas un spécialiste des réseaux de neurones, d'accord ? Et je pense que ce qu'on dit aujourd'hui, ce qui était dit dans ce papier n'est déjà peut-être plus tout à fait vrai actuellement, et que dans 5 ans, ça sera certainement plus vrai, parce que les réseaux de neurones auront changé totalement d'architecture, et on sera capable de faire beaucoup mieux. Ce qui me semblait important ici, c'est d'être capable d'avoir une estimation et de relier ça à la dimension non linéaire, ce qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Et ce que je disais, c'est que j'aimerais bien être capable d'avoir le même type d'approximation pour, dans ce cadre où les encodeurs et décodeurs ne sont pas non linéaires, mais simplement la partie encodeur est linéaire et la partie décodeur est non linéaire, dans ce cadre-là, je ne sais pas quelle est la taille du n ici. Le n est forcément supérieur à celui-là, puisque ici, on accepte des classes plus larges d'encodeurs et décodeurs, mais le n qui est ici, localement, en tout cas, si on est tout près de d'un point sur la variété, alors j'ai démontré qu'on peut prendre n est égal à p. Donc, du coup, si on, par continuité, on peut garder n égale p un petit moment, et puis si on élargit trop, on va passer à p plus 1, p plus 2. Mais pour le moment, je n'ai pas du tout de borne du type 2p plus 1 qui serait intéressante à obtenir. Et donc ça, c'est, si vous avez des idées, elles seront les bienvenues. Le nombre minimal de couches ici est lié à la régularité des paramètres qui interviennent dans la... j'ai dû mettre ça ici. Voilà, lié à la régularité des coefficients et lié à la dimension linéaire de Kolmogorov de la variété. Donc il y a un théorème qui explique ça. Je ne l'ai pas donné parce que déjà c'était assez compliqué avec les deux théorèmes 1 et théorème 2, et je pense que de toute façon ce qui a été démontré à cette époque-là n'est plus vrai maintenant, parce que je pense qu'au niveau des réseaux de neurones, il y a eu des progrès qui ont été faits.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.